ma nouvelle carte. Qu'est-ce que vous en dites?
Oh, oh, très joli. Regardez un peu ça.
Je suis passé la prendre chez l'imprimeur hier.
Très jolie teinte.
J'ai pris Os. Et j'ai choisi un très beau caractère, le Cillian Rail.
Oui, elle est cool, Batman, mais ce n'est rien. À côté de celle-ci. Faut reconnaître qu'elle est splendide. Coquille d'œuf, avec des caractères romains. Qu'est-ce que tu en dis?
Jolie.
Nom de Dieu. Elle est vraiment super. Comment est-ce qu'un gland comme toi peut avoir tant de goût?
Je n'arrive pas à croire que Bryce préfère la carte de Van Patten à la mienne.
Mais attendez. Vous n'avez encore rien vu. Lettre en relief. Blanc légèrement cassé. Avec des reflets.
Impressionnant. Très réussi. Voyons celle de Paul Allen. Quelle subtile nuance de blanc cassé. Épaisseur finement étudiée. Oh mon Dieu. Il a mis des filigranes.
Tu te sens mal, Patrick? Tu transpires?
Il y a la perfection et ensuite Libradio. www.libradio.org.
Alors, nous sommes donc le 1er août 2017 et Libradio est au pavillon bleu en plein cœur des grottes en compagnie de Jules que l'on salue. Bienvenue à toi, Jules.
Bonjour, bonjour.
Bonjour, bonjour. Alors, à la technique aujourd'hui, c'est Igor, bien entendu. Hein. On ne saurait trop présenter les personnes qui sont dans l'ombre comme ça à la technique, puisque, évidemment, en faisant de la radio, on a toujours besoin d'une personne qui s'y colle. Alors, nous allons immédiatement commencer cet entretien. Donc, déjà, bienvenue à toi. Est-ce que tout va bien? Est-ce que tu es bien installé? Est-ce que. Voilà, ça va.
J'ai légèrement très chaud, mais c'est de te voir. Ouais,
il fait une chaleur absolument étouffante ici à l'intérieur du pavillon bleu. Alors, Jules, nous, en fait, on s'était vu, ça fait il y a de cela quelques années. Tu étais venu jouer notamment au festival Châteaubriant à l'époque. Et puis, eh bien, depuis un moment, alors nous, effectivement, on a suivi ton parcours et ton évolution. Mais on ne s'est plus vu depuis un moment. Alors ça, c'est toujours assez génial quand on fait des retrouvailles comme ça, parce que comme beaucoup d'eau a passé sous les ponts, eh bien, il y a plein de nouveautés qui apparaissent. Alors peut-être que ce qui serait bien, ce serait qu'on commence par présenter, que tu te présentes et que tu nous en dises plus sur ton état musical actuel. Formation, instrument, qui fait quoi, un petit peu toutes ces choses-là finalement.
Eh bien, j'ai grandement progressé. Parce que je suis toujours auteur, compositeur, interprète, un peu comme Jean-Jacques Goldman, mais en moins Jean-Jacques et en moins Goldman d'ailleurs, ça marche moins bien. J'ai pris des cours de chant, il m'a fallu à peu près une quinzaine d'années pour me décider. En fait, c'était difficile de trouver le prof qui me correspondait. Et j'ai pris avec Yvan Franel de Stevens. Et je dois dire que non seulement il a réussi à me faire progresser, mais on avait la même envie de faire des jeux de mots pourris. Donc, il comprenait mon besoin de me soulager en faisant de l'humour tout en étant sérieux dans le travail.
Cette volonté de tout faire, ça, c'est quelque chose auquel tu tiens beaucoup. Ce que je veux dire par là, c'est que tu chantes, tu joues de la guitare et puis tu composes également les paroles et les mélodies.
Oui.
En fait, en gros, tu fais tout. Est-ce que c'est pas des fois trop lourd? Est-ce que des fois on se dit pas, si je mettais un truc de côté, je pourrais peut-être, tu vois, l'idée de se spécialiser en guillemets, mais de se dire, voilà, je pourrais peut-être donner une plus grande mesure de ce que j'ai envie de donner si je ne faisais pas tout. Ou justement, il faut que tout soit là en même temps parce que l'un nourrit l'autre.
Dans la composition, j'ai besoin de tout faire. Ça, j'ai besoin, mais c'est pas pour avoir besoin de tout diriger. Parce que je travaille avec des musiciens, donc je leur présente mes chansons et après on travaille dessus, donc je suis très ouvert. Je suis un peu comme, attention la comparaison de ouf, je suis un peu comme Sting.
Ouais.
Sting, il s'entoure de très très grands musiciens, il prend leur avis en compte. Moi je fais la même chose et ils sont très bons mes musiciens. Mais j'ai besoin de composer parce que c'est mon exutoire. C'est comme ça que j'envisage la musique. C'est vraiment de maîtriser, mais de composer de A à Z. Par contre, ce que je fais de plus en plus, c'est qu'en concert, je lâche la guitare. J'ai maintenant deux guitaristes avec moi. Il y a toujours Pascal Schlatter, qui est mon guitariste hero, et Christophe Adic, qu'on a engagé il y a à peu près 2 ans maintenant, et qui me remplace avec grand succès, ce qui fait que je peux me concentrer sur le chant, ce qui fait que je chante mieux, en concert aussi. Mmh. Et là, effectivement, bah, je suis libéré. Je me suis libéré d'un poids qui était la guitare, qui m'empêchait, parce qu'il faut être carré rythmiquement, et donc du coup, on est concentré sur la rythmique et plus forcément sur le chant, et c'est extrêmement dommage. Après, honnêtement, s'il y a une chose que je pouvais lâcher, qui pourrait m'aider, c'est la recherche de concerts. C'est un truc qui prend énormément de temps, avec malheureusement peu de succès, et qui là effectivement peut peser sur le moral et arriver à un moment où on dit bah, ça sert à rien.
Ouais. Donc toute cette partie administrative, tu veux dire, de tourneur finalement. D'accord. Donc ça on reviendra de toute façon là-dessus un petit peu plus tard. Mais ça veut dire que là maintenant tu as une formation qui est stable, qui est donc composée de...
Alors j'ai... Au niveau du batteur, c'est un peu compliqué.
Okay.
J'en ai eu plusieurs, mais là actuellement je travaille avec Tippy Drummer, qui s'appelle Thierry Palais, qui est un excellent, excellent batteur professionnel. Malheureusement, bah, on ne peut pas toujours trouver un terrain d'entente, parce que suivant les concerts que je fais, vu que j'ai tendance à faire des concerts aussi gratuits, c'est difficile. Lui, c'est son métier, il doit en vivre.
D'accord,
c'est mais c'est le premier aussi à faire l'effort de venir. Ça, je le remercie beaucoup. On a un bassiste qui s'appelle Pascal Grosjean, qu'on appelle Gros. Il est bien qu'on l'appelle Gros. Parce que le problème, c'est que j'ai un deuxième Pascal à la guitare. Donc ça fait des Pascaux, comme les grottes de Pascaux. Les fameuses.
Et les fameuses, ouais.
Et l'autre guitariste, donc Christophe Hadi.
D'accord. Okay.
C'est assez stable.
Alors,
oui.
C'est assez stable. Ça, c'est quand même bien, j'imagine. Parce que justement, est-ce que le fait de faire un petit peu tout le travail, alors là, tu l'as dit, il y a des choses que tu commences à lâcher un petit peu. Mais est-ce que des fois, pour certains musiciens, c'est pas frustrant? Ou est-ce que c'est... Ce que je repars là, la question qui est sous-jacente, c'est est-ce que c'est plus compliqué ou moins compliqué, lorsque l'on fait tout, de s'entourer de musiciens?
Le plus difficile, très honnêtement, c'est la communication. Comme ce sont de très bons musiciens, eux, ils vont parler en croche, double croche, mesure, et moi, je vais dire, oui, mais après trois tours, on part en tout-doum-doum.
Ouais, ok.
Et là, ils doivent me comprendre, parce que j'ai tout dans ma tête, même des solos, j'ai des sons d'harmonica, dans ma tête il se passe beaucoup de choses. Mais après, pour que ça ressorte, ça devient extrêmement compliqué, comme j'ai aucune notion de solfège. Je suis vraiment autodidacte de base, donc ouais. Je prends la guitare et puis après c'est ce qui sort de ma tête. Donc des fois c'est un peu compliqué.
D'accord.
Là est le problème. Par moments où effectivement, je te rejoins, c'est frustrant parce que j'ai envie de leur expliquer ce que je veux. Je peux pas leur montrer parce que j'en suis incapable. Et heureusement, ils arrivent de plus en plus à rentrer dans mon cerveau et à comprendre ce que je veux.
Et ça veut dire que donc, c'est du coup un énorme travail, on répète, d'arriver à finalement accorder les guitares, non pas les violons cette fois-ci, mais je veux dire d'arriver à ce que les arrangements soient, enfin que tout le monde soit content de ces arrangements-là, d'arriver à trouver le consensus, je veux dire.
Voilà, oui, parce qu'il y a, il y a des concessions à faire. Sur certaines chansons, le guitariste va me dire « Ah, j'aurais préféré plus de disto ou plus de ça », et de temps en temps, j'accepte. En disant, bah oui, mais alors sur l'autre chanson, tu mettras plus de ça.
Ouais,
mais
c'est ça.
Très globalement, ça va bien. C'est pas seulement un travail de répète. Je pense que c'est un travail d'écoute des uns des autres. On peut répéter. J'ai déjà joué avec des musiciens, on a beaucoup répété. Le résultat se faisait pas sentir. Il faut une certaine connivence. La musique, c'est un partage. Et il faut être en phase avec ces personnes-là, avec qui on fait ce partage. Si on n'est pas en phase, on peut répéter énormément. Ça sonnera carré, mais ça ne sonnera pas humain.
Ouais, absolument. Alors justement, tu as dit le mot magique, hein, connivence, complicité, affinité. Est-ce que ça veut dire que tout au long de ton parcours, eh ben, on met du temps à trouver la formation qui justement va faire surgir cette complicité suffisante qui fait qu'on est tellement à l'aise qu'on peut, voilà, qu'on peut bosser ensemble?
C'est rigolo, on parlait avant hors antenne, je suis allé voir U2.
Oui.
Pour moi, U2, c'était l'idée de la musique, pour moi. Un groupe, c'était 4 personnes ou 5 personnes qui font du début à la fin le groupe. Parce que ça donne extrêmement bien, on sent leur complicité. Et mon plus grand regret, c'est la première fois où l'un des musiciens est parti. Je me suis dit, non, bah, j'arriverai pas. Et ça a pris beaucoup, beaucoup de temps pour trouver les bonnes personnes.
Ouais,
et
c'est
ça. Je pense les avoir trouvées, mais est-ce qu'elles m'ont trouvé? Ça faudrait leur poser la question.
Exactement, exactement. Alors dis-moi, revenons au répertoire. Est-ce que tu te revendiques d'un certain répertoire? Ce que je veux dire par là, c'est que quoi qu'il en soit, déjà le choix, ton choix, c'est celui de la chanson française. Puisque toutes tes chansons sont en français, à moins que tu aies déjà composé ou chanté quelque chose autre qui n'est pas en français.
Il y a une nouvelle chanson qui est en italien, mais que j'expliquerai après parce que je pense que je pourrais vous la jouer.
Bah, volontiers.
Pour moi, l'italien, c'était important puisque mon père était italien, ne m'a jamais appris l'italien, donc j'ai pris des cours et cette chanson, en fait, elle représente l'espèce de rejet qu'on fait des réfugiés. Et
d'accord.
J'ai pris l'italien parce que mon père est arrivé en Suisse et s'est fait naturaliser suisse.
Oui.
Et c'est en Italie que tous ces réfugiés arrivent aussi. Pour moi, il y a quelque chose d'inconcevable à ne pas réfléchir à parler en vitesse, dire non, on ne les veut pas. C'est, on les laisse dans l'eau. Enfin, ça, c'est un truc que je, qui est abominable. Mmh. Et donc, j'ai fait cette chanson en hommage à mes parents, enfin, à mon père plus précisément, et aussi à tous ces immigrés.
D'accord.
Et sur le nouvel album, il y aura aussi une chanson qui s'appelle Mon frère, qui raconte l'histoire d'un de mes amis, un Africain qui a travaillé pendant plusieurs années au Black. Il faisait tout bien, très poli, très gentil, le premier rang de service. Et il s'est fait tabasser dessus un samedi soir. Tout ça parce qu'il était noir par des abrutis.
Ouais. Alors, on reviendra sur le thème, effectivement. Alors, donc, hormis cette chanson en italien, le reste, c'est vraiment systématiquement en français. Ça, pour toi, c'est important ?
Oui, c'est important. C'est une belle langue et on peut la faire sonner. Alors, c'est vrai que ça demande un peu de temps. Les chansons, ben, je me pose beaucoup dessus. J'essaie de réfléchir, de jouer un peu avec ces mots. Alors, je n'ai pas encore le talent d'un Pierre Perret ou d'un Renaud, qui ont vraiment quelque chose de formidable, ou même dans un certain style. Moi, j'aimais beaucoup Noir Désir, parce que faire sonner rock des textes en français, c'est vraiment pas évident.
C'est clair. Alors justement, voilà, concernant encore la langue française et la manière dont elle sonne, souvent, effectivement, on a ici à la radio des premières scènes des jeunes groupes et puis ils nous disent « oui, mais l'anglais, ça sonne mieux, ça claque et tout et tout ». Et puis on a l'impression que quand même, si on va dans le répertoire français, même un peu ancien, on se retrouve avec vraiment des chansons qui claquent également en français. Alors, est-ce que toi, tu te situes plus justement du côté Noir Désir Saez ou du côté Bobby Lapointe, Brassens, des choses comme ça ? Je dis Bobby Lapointe à dessein parce que je sais que tu es friand de jeux de mots, de calembours. Ça, c'est vraiment un univers qui te plaît. Hein.
Exactement, mais que je n'arrive pas à le mettre en musique. Et je pense que c'est aussi une volonté, peut-être inconsciente de ma part, parce que les jeux de mots, je les garde la plupart du temps entre les chansons. Dans la chanson, j'ai vraiment envie d'exprimer quelque chose et le jeu de mots ne me vient pas naturellement. Par contre, une fois que la chanson est terminée, enfin pour moi, la scène, c'est un petit peu comme une vie, un morceau de vie. C'est-à-dire que bah, là, je parle d'une chanson sur, je ne sais pas moi, l'euthanasie. Et bah, droit après, là, je commence à faire des jeux de mots parce que c'est un exutoire, parce qu'à un enterrement, après l'enterrement, on fait l'apéro et on rend hommage en se rappelant des bons moments. Et c'est ce moment-là, après, je peux rebondir sur une chanson de naissance. Mais écrire, c'est vrai, comme Bobby Lapointe, par exemple, non, j'en suis incapable, mais j'adore, hein, les Fatal Picard aussi.
Oui, oui.
C'est formidable, mais non, je suis plus de la veine, alors 16.
D'accord, c'est plus de ce que... Ouais. Parce que, de nouveau, est-ce que c'est la forme qui conduit à un contenu ou l'inverse ? Ce que je veux dire par là, c'est que, si, effectivement, est-ce que quand tu construis la trame d'une chanson, la mélodie, les paroles, est-ce que quelque chose... prend le pas sur l'autre ou est-ce que c'est vraiment les deux choses qui doivent arriver quasiment simultanément ?
Ça dépend. Ça dépend, ça dépasse, mais ça dépend vraiment parce que j'ai écrit des chansons par rapport à la mélodie, la petite mélodie qui me venait m'inspirait le texte.
D'accord.
Mais j'ai aussi eu des textes qui m'ont inspiré la mélodie.
D'accord, donc ça c'est vraiment... Voilà, il n'y a pas du tout une règle. C'est l'inspiration qui surgit là, à ce moment-là. D'accord. Et concernant les thèmes, y a-t-il des thèmes comme ça qui sont chez toi récurrents ou qui vraiment sont particulièrement sensibles, délicats, que tu as envie de faire surgir comme ça ?
Oui, alors je dirais l'amour. Mais l'amour avec un grand A, c'est vraiment un mélange. Je suis amoureux de la vie. Mm-hmm. Donc je crie mon amour à la vie d'une certaine manière.
Ouais.
Je suis très amoureux du respect. Le respect d'autrui. Et donc j'ai de plus en plus chansons engagées, et je me revendique. Et puis l'innocence. Mon premier groupe s'appelait Innocent Pain, en hommage à l'innocence des enfants, pardon.
Oui.
Et j'ai gardé ça. Bah, maintenant que c'est vrai que j'ai un fils aussi et je vois toute cette candeur, cette innocence, cette beauté, cette ouverture, cette tolérance dans les yeux de mon gosse que je continue à écrire là-dedans et à regarder dans ses yeux pour ne pas devenir un adulte méprisant et méprisable.
Et alors, justement, comment est-ce que toi, tu observes ce qui nous entoure ? Parce qu'effectivement, on vit une période pour le moins trouble où on s'aperçoit qu'il y a quand même des... Enfin, il y a des... Les sujets d'indignation sont la multitude. Y en a-t-il qui te choquent particulièrement quand tu observes le monde, justement, à l'aune de ton rôle de papa également, puisque tu es un jeune père ?
On monte les gens les uns contre les autres en arguant qu'il faut être meilleur que l'autre. La vie n'est pas être meilleur que l'autre, c'est aider l'autre à progresser, selon moi. Et actuellement, dans notre société occidentale, c'est la folie. Enfin, je veux dire, quand on voit en France Macron qui est le libéralisme à outrance, et oui, Il a dit, et ça c'est quelque chose qui m'a quand même choqué, il dit oui, la pénibilité du travail n'existe pas. Évidemment, il travaille pas alors. Forcément, ouais, mais évidemment. Je crois qu'il a jamais été, il est jamais allé dans un hôpital, sur un train, dans des crèches, aller en banlieue, pour, même pas en banlieue, dans n'importe quelle école, aller enseigner à des enfants. Ça, c'est des travaux qui sont pénibles, qui sont extrêmement importants. C'est la base. Mais on oublie gentiment cette base. Comme ça, on avilise le peuple. Non, peut-être pas, mais on abêtit un peu le peuple avec des émissions à la mort moelle-neuve. Et les gens ne réfléchissent plus. Ils ne réfléchissent plus par eux-mêmes. On leur dit, ouais, mais c'était marqué sur Internet ou c'est passé à la télé. Et ça, c'est une réalité. On me dit, oui, non, mais je l'ai vu dans le journal de téléphone, c'est pas bien.
Ouais. Et selon toi, là, la chanson, l'art en général, a un rôle à jouer. D'une certaine manière, est-ce que toi, sur scène, tu peux être parmi les personnes qui, en tout cas, tu aspires à ça également, à dire, bah, je suis là aussi pour mettre mon petit, ma petite brique à l'édifice, pour changer un petit peu ces choses-là, pour dénoncer et peut-être inviter les gens à avoir un esprit critique et à changer un petit peu les choses autour de nous.
Alors, ce que j'essaye de faire, c'est pas donner ma vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité. Chacun doit trouver la sienne, mais effectivement, dire voilà, réfléchissons un peu. Il y a certains mots qui touchent. Les mots qui touchent, réfléchissez, ouvrez les yeux, vivez ensemble, soyez heureux. C'est marrant, mais en concert, effectivement, quand je dis ces mots-là, je sens qu'il y a un retour. Mm-hmm. Quand les gens sortent de mes concerts, souvent, ils sont tout heureux et ils sont, peu importe qui avait dans le concert, ils ont plein d'idées, on va faire la fête avec telle ou personne. Il y a un moment de grâce et il y a des chansons où je vois très bien que je change moi-même. Il y a une chanson qui s'appelle L'Écrit, qui parle de la religion, qui n'est pas contre la religion parce que chacun trouve son aide où il le veut, mais utiliser la religion contre les êtres humains, je trouve ça abominable. Ouais. C'est ce qu'on fait actuellement.
Je te propose qu'on fasse une petite pause musicale. Alors, je crois qu'il y a des chansons de ton répertoire qui sont prévues. Igor, tu me confirmes ça ? Je crois que c'est le cas. Alors, si tu nous donnes le titre comme ça, peut-être que Jules pourrait nous en dire quelques mots avant que l'on écoute cette chanson. Ah bah, oulala, L'Éveil. Je me souviens de ça. Alors, dis-nous quelques mots de L'Éveil, Jules.
Ah, L'Éveil, c'est un hommage à toutes les femmes. J'ai eu la chance d'assister. Non, je parle comme chaque chaparche. J'ai eu la chance d'assister à la naissance de mon fils. Et le courage de ces femmes, c'est impressionnant. Impressionnant. Et L'Éveil, c'est la beauté de la vie. Mais pas que la beauté. Oh, un enfant, c'est beau. C'est aussi tout le côté sang. Parce qu'il y a beaucoup de sang là-dedans. Et quand il y a du sang, il y a de l'humain. Et voilà. C'est un hommage, c'est vraiment un hommage.
Allez, on y va, on écoute L'Éveil, c'est Jules. Et nous sommes ensemble depuis le pavillon bleu, c'est Libre Radio. C'est parti.
Il s'angoisse, ne voit plus la bonheur. Et chagrin, il est tellement fier pour son lendemain.
Voilà, donc on vient d'entendre l'éveil. Ça, c'est une chanson pour toi qui marque un tournant quelque part dans ta, dans ton évolution de, et dans celle de ton répertoire. Je veux dire, ce moment-là où j'imagine qu'il y a quand même un avant et un après la condition de père et que celle-ci modifie d'une certaine manière la, la vision qu'on a du monde et de ceux qui nous entourent.
Et c'est tout à fait vrai. Jusqu'ici, les gens qui me suivaient en concert me disaient « mais t'as des super textes, mais on dirait que tu vas te pendre ». Une sorte de dépressif. Au niveau des textes, vraiment, je parlais effectivement beaucoup de mort, de drogue, d'euthanasie. Enfin, c'était un peu mon univers, mais c'était dû justement à la mort de mes parents qui m'ont donné l'envie d'écrire. Enfin, ça a été tout un processus. Et c'est vrai que la rencontre avec la mère de mon fils et la rencontre avec mon fils ont changé pas mal de choses. Alors, je reste toujours sur ces sujets-là. Parce que pour moi, il n'y a pas de vie sans mort, il n'y a pas de mort sans vie. Avoir conscience qu'on peut mourir, être conscient de cela, ça nous permet de vivre. Si on n'a pas cette conscience, on ne s'intéresse pas aux autres. On fait rien, en fait. On fait rien.
Ouais. Bah alors justement, dans l'idée, j'imagine pour un auteur, compositeur, interprète, c'est de délivrer un message, c'est de léguer quelque chose. Est-ce que ça nous habite quand on compose une chanson? Est-ce que quand on compose, on dit voilà, ça c'est un truc, ça a surgi en moi, c'est des sensations, c'est des sentiments, mais qu'on compose quand même, parce qu'à un moment donné, il y a une rationalité qui surgit quand même, qui est là, qui doit être là. Et est-ce qu'on se dit quand même qu'on écrit pour soi, certes, mais également pour les autres, et que du coup, ça façonne d'une certaine manière les textes et les mélodies? Pas tant que ça.
Oui, dans un certain sens, non dans l'autre. Je m'explique. Mm-hmm. Effectivement, c'est un exutoire, j'ai besoin d'écrire. Par contre, ce n'est pas du tout pour marquer, laisser une trace ou quoi que ce soit. La trace que je vais laisser, ça sera descendre au stade des Charmilles.
Non, c'est le stade des Charmilles, qui est devenu le parc Hench. Hein.
Voilà, mais oui. À Bénédicte. Mais par contre, ce que j'aimerais faire, c'est que si les chansons pouvait dégager quelque chose, c'est-à-dire plaire aux gens, et que les gens viennent me voir en concert, et qu'il y ait de plus en plus de monde qui viennent au concert, et que les médias s'y intéressent, je vais pouvoir enfin faire mon rêve de toujours, c'est-à-dire faire de la musique caritative. Puisque moi, je fais mon exutoire, donc j'écris, je suis heureux, je n'ai pas besoin de beaucoup plus. Je suis né en Suisse, j'ai un enfant qui va très bien, je suis en pleine santé, je n'ai pas à me plaindre. Par contre, il y a énormément de gens qui n'ont pas droit à la parole, qui ont besoin d'aide. Et j'ai envie, alors j'aimerais bien être le porte-parole de ces gens-là grâce à la musique. Comme je l'ai dit avant, la musique est un partage et je vois cet objectif-là. Donc oui, le partage, mais pour pouvoir donner encore plus, pouvoir partager plus. Quand on voit les sommes d'argent qui sont en jeu dans la musique actuelle, et les gens comme les maisons de disques et certaines radios et certains tourneurs se gavent d'argent, et cet argent-là pourrait être utile pour créer des projets, je sais pas moi, le Château Bruyant par exemple, mais c'est un exemple, mais là aussi, mon idée c'était d'organiser un festival avec que des jeunes en difficulté. C'est-à-dire que je les coach, on dit voilà, maintenant vous êtes un peu hors de la société, ce qu'on peut faire c'est créer un festival, chacun trouve sa place, et puis on peut faire venir des gens connus, puisque si Juste était connu, c'est mieux. Hein. Si Juste était connu, ça aurait pu être possible et ça aurait été génial.
Ouais.
Maintenant, j'y crois encore, comme disait Céline Dion.
Mais...
grands auteurs.
Qu'est-ce qui manque à la scène locale pour justement arriver à monter ce type de projet, selon toi ? Parce qu'effectivement, quand on t'entend comme ça, on se dit, mais effectivement, on sent qu'il y a un rôle social, sociétal et solidaire au sein de la musique. Et on peut imaginer qu'il y a certainement des auteurs, compositeurs, interprètes par ailleurs qui souscriraient. On peut imaginer à ce type de projet. Mais voilà, on voit bien qu'ils ont du mal à apparaître, ces projets. Selon toi, comment ça se fait ?
Manque de moyens pour la culture de base. Alors évidemment, pour la culture de haut niveau, que ce soit le Grand Théâtre, le MAMCO, qui est un super musée hein, d'ailleurs, là, il y a des moyens. Par contre, pour tout ce qui est petite salle, c'est extrêmement compliqué. Moi, j'essaie de démarcher à Genève. Je dis, ouais, j'aimerais bien organiser. Il y a l'Undertown à Mérin qui accepte volontiers de faire des partenariats une fois par année. Au-delà de ça, c'est extrêmement difficile. J'ai de la peine à trouver. Alors après, je ne connais pas tout le monde. C'est difficile, hein, j'ai un travail à 100% aussi, mais... Je trouve qu'il y a un manque de volonté à ce niveau-là.
Tu dirais alors un manque de volonté politique, un manque de volonté du côté des institutions, de ce côté-là.
Exactement, oui.
D'accord. Penses-tu que c'est une situation qui est particulière à Genève ? C'est vraiment Genève-Ville, Genève-Canton qui est dans cette situation-là ? Ou selon toi, c'est quelque chose qui est régional, roman, ou même plus que ça ?
En Irlande, ça marche très bien. Je suis passé à Dublin. Mmh. À Dublin, il y a dans chaque pub, il y a une cave, et dans chaque cave, il y a un groupe ou deux groupes qui se partagent. Donc ça, c'est tout à fait possible. À Genève, et je parle de Genève parce que je suis genevois,
oui.
Je vois qu'il y a de la peine. Maintenant, peut-être qu'à Neuchâtel, c'est pareil, en Suisse romande, c'est pareil, en Suisse allemande, peut-être aussi. Malheureusement, j'en sais rien. Je ne peux que constater ce que je vois, moi.
Bien sûr. Ouais. Est-ce que selon toi, alors du coup, c'est peut-être parce que tu fais l'analogie musique, solidarité, projet humain et toutes ces choses-là, que ça complique l'affaire. Est-ce que des gens qui se diraient, voilà, ben moi j'ai envie de programmer juste un groupe et que ce soit de la musique et que ce soit un entertainment, un divertissement, point à la ligne, pourraient être effrayés ou rétifs à l'idée de se dire, oui, mais si c'est encore un chanteur à texte qui va nous dire ça, et gnagnagna, ben j'ai moins envie.
Je lui dirais, viens voir mes concerts d'abord. Et il verra que j'essaye en tout cas de ne pas être un donneur de leçons. C'est vraiment un moment de fête.
Mmh.
Et si le programmateur veut juste un moment festif, ce n'est pas un problème. Maintenant, si lui il trouve un problème à avoir des gens qui s'inquiètent des uns des autres, qui veulent faire un partage, effectivement, ben là, on retourne dans le même problème sociétal. C'est-à-dire qu'il est là que pour se faire du pognon.
Absolument. Ouais. Alors, allons-y. Les dernières scènes ici et les prochaines scènes ici, est-ce que tu as déjà un agenda ? Pour, bon là c'est l'été, certainement qu'il y a un petit moment de pause, ou alors est-ce que tu es justement maintenant au travail pour trouver des prochaines scènes ?
Alors c'est difficile hein, d'être au travail pour trouver des scènes, j'envoie énormément de mails, je fais beaucoup de téléphones, mais ça laisse lettre morte comme on dit. J'ai probablement la possibilité de faire 2-3 dates en Corse, parce que je pars en vacances en Corse et j'ai des amis là-bas.
Génial.
Qui pourraient m'aider à faire 2-3 dates.
Oui.
Et au retour, le 16 septembre, on jouerait au Don Pedro, qui se trouve à Satigny. C'est un restaurant qui est très bon, très très bon, et qui veut organiser les concerts le samedi soir.
Chouette.
Donc très bien, et il rémunère les musiciens, ce qui est encore beaucoup plus
encore
rare.
Mieux, ouais, tout à fait.
Mais voilà, il est très ouvert, donc là, 16 septembre.
Ok, ça, ces informations-là, est-ce qu'on les trouve sur un site internet, ou comment est-ce que les personnes peuvent rester informées avec ça ?
Alors, soit en me téléphonant directement, parce que je n'ai pas beaucoup d'amis, donc ils peuvent m'appeler. J'ai un WhatsApp. Sinon, sur Facebook, il y a une page Joule officielle. Alors, j'insiste sur le Joule. G-I-U-L. Je ne fais pas du rap marseillais. Je n'ai pas de sigle bizarre et je ne m'autotune pas. J'ai préféré prendre des cours de chant dans une pipe.
Il y a la volonté de faire le truc. Hein. D'accord. Donc c'est plus la page Facebook, disons, qui met en exergue l'actualité, ton actualité.
Exactement. Et j'ai juste oublié un truc. Je me suis trompé avant. Hein. Je sais pas. Céline Dion qui chantait ça, c'est Lara Fabian.
Ah, c'est Lara Fabian. Ah bah du coup, non, ça change tout. Absolument. Et puis on cite ses sources, c'est tout. C'est important de les citer juste. Oui. Voilà, ben, c'est corrigé. Dis-moi. Donc ces prochaines scènes, elles sont. Alors c'est à Satigny. Après la Corse, effectivement. Courage, hein, si tu y vas, ben, bravo, c'est vrai que ça donne envie en tout cas. Mais tes aspirations, ce serait de dépasser, j'imagine, le canton, la Suisse romande, peut-être d'aller vers la France et tout. Vers quoi est-ce que tu as envie de t'intéresser? Vers quoi tu as envie d'aller? Est-ce, pourquoi pas même des pays, justement, l'Irlande, tu disais?
Alors, vu mes textes, si je vais en Irlande, ça va être un peu plus compliqué.
Effectivement.
Mais la France, oui, bien sûr. Moi, la France, mais même en Suisse allemande. On ne le sait pas, mais je parle suisse-allemand et les suisses-allemands sont assez friands de chansons françaises.
Oui.
Ils aiment beaucoup. Maintenant, il faut trouver, c'est toujours un problème de contact. Il faut connaître les gens.
C'est ça. Alors, c'est effectivement difficile, très difficile de trouver des dates, en fait, c'est ça.
Exactement.
Ouais. Comment tu l'expliques ça? C'est que les gens sont justement un petit peu, comment dire, rétifs à l'idée de ne pas connaître quelqu'un et de le programmer. La nouveauté fait un peu peur. Enfin, qu'est-ce qui fait que c'est délicat comme ça?
La nouveauté, oui, le fait de faire ses propres chansons, parce que souvent, les gens programment plutôt des groupes de reprises, d'accord, ce que je fais quasiment pas. Et puis, c'est les contacts. C'est aussi simple que ça. Il me semble que dans 80% des cas, si on, dans le festival, par exemple, hors tribu, si on connaît le programmateur, bah, on a une chance de faire une petite scène. Et je me dis toujours, si j'avais la chance de connaître un ou deux programmateurs, je pourrais prouver mon talent sur scène. Mmh. Parce que alors, si j'estime si j'ai un talent, c'est sur scène. C'est pas forcément dans l'écriture ou dans le chant, mais sur scène, il y a un truc qui se passe. Mais il faut avoir sa chance. Et pour ça, il faut connaître des gens.
Donc c'est vraiment un problème de réseau,
oui,
en fait.
Alors s'il y a Monsieur Réseau qui est dans le coin et qui veut m'appeler, qui me joigne.
On lance l'appel, là, nous, maintenant, à Libre Radio. N'hésitez pas à contacter Jules via la page Facebook. Je pense que c'est plutôt de ce côté-là qu'on... Voilà, pour te proposer des concerts, tu es ouvert à... Voilà. Y a-t-il des scènes un petit peu singulières dans lesquelles tu aimerais absolument aller, auxquelles tu aspires, auxquelles tu rêves, comme ça, des lieux un petit peu insolites?
Du coup, le Bataclan maintenant m'intéresse beaucoup, oui. Oui, parce que c'est chargé pour moi. C'est
sans blague.
Voilà. J'imagine. Le Bataclan, j'ai un ami qui a joué, ouais, qui s'appelle Stephen Garey, et ouais, j'ai très très envie d'aller là-bas. Je suis pas attiré, par exemple, par l'Olympia. Il y a eu tellement de choses nulles qui sont passées là-bas que son âme a été vendue ou brûlée ou je ne sais pas, mais salie en tout cas. Donc non. Après, j'aime bien moi les petites salles, la salle. L'Undertown, j'aime toujours. J'irai peut-être au Chat Noir, peut-être, une fois.
Ouais. Oui, effectivement, le Chat Noir, c'est une belle salle. Ouais.
Et puis, un endroit, oui, j'avoue que le stade de la Praille, ça serait bien.
Bah ouais,
pour un Servetien,
en fait. C'est quand même oui, parce qu'en plus, hein, d'accord. Et puis, quant au groupe, comment est-ce que toi, tu observes la scène locale, régionale, francophone? Parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, nous, on reçoit assez régulièrement des groupes de... des jeunes groupes, hein, de musique, et beaucoup d'entre eux, effectivement, font l'impasse et ne s'expriment pas en français. Alors toi, qu'est-ce que tu en dis? Est-ce que tu as la sensation que c'est un petit peu dans l'air du temps de passer à l'anglais et de laisser un peu de compte le français? Ou alors, c'est pas vrai, il y a une scène vraiment francophone ici à Genève qui est un petit peu effervescente comme ça.
À Genève, j'ai pas remarqué ça. Mais déjà, je vois peu de concerts à Genève. Honnêtement, j'en vois peu, donc c'est difficile à dire. Et j'ai pas l'impression que ça soit dans l'air du temps. Quand j'ai commencé la musique, il y a 20 ans de ça, Wouyou, et ben c'était déjà le cas. Les gens n'écrivaient pas en français parce que c'était plus simple en anglais. Ça continue, simplement, ça continue. J'ai cette impression-là. Mm-hmm. La différence, peut-être, c'est que maintenant, je pense que les groupes qui écrivent en anglais, ils comprennent ce qu'ils racontent. Avant c'était pas vraiment le cas.
C'est clair. Les projets, ton futur, ton avenir, en termes d'évolution musicale, où en es-tu actuellement et vers quoi est-ce que tu as envie de te rendre?
Je prépare un album qui devrait sortir en octobre, qui s'appellera je ne sais pas comment. Le titre de base était Mélancolie. Et puis je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure des textes, il y a de la mélancolie, mais il y a beaucoup, beaucoup d'envie. Il y a beaucoup d'envie de vivre. Et c'est un album qui va être très positif. Et le but de cet album, c'est de trouver des concerts. Moi, je n'envisage la musique que par concert. Ouais. C'est mon truc, je veux des concerts. Donnez-moi des concerts!
Bah voilà, en tout cas, l'appel est lancé et puis j'espère que des gens vont réagir à ça. Nous-mêmes, en tout cas, ça n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, t'imagines bien. On va peut-être rappeler encore prochaine date et puis la page Facebook, c'est ça ? Pas de site internet, ça c'est un choix ? Ou bien c'est juste qu'il y a déjà assez à faire avec la composition, l'écriture ?
J'avais un site internet, joule.ch, mais en fait, les gens allaient sur Facebook. Ouais. Le peu de gens qui n'allaient pas sur Facebook, c'est-à-dire 3, je les connais. Donc je leur envoie un mail, c'est beaucoup plus simple.
C'est plus facile.
Pour l'instant, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Mmh. Après la prochaine date, donc ça sera le 16 septembre. Il y aurait normalement le 14 octobre à Bellegarde sur Valserine, aussi dans un bar qui s'appelle l'Alibaba. Et puis le Stade de France, c'est agendé pour dans 3-4 ans.
D'accord, donc on, on se revoit à ce moment-là. Nous on viendra, on bougera la petite machine jusqu'à là. Je te remercie beaucoup, Jules. Qu'est-ce qu'il faut te souhaiter ? Y aurait-il comme ça un souhait que tu aimerais que l'on t'envoie à la volée pour ces prochaines années ? C'est de continuer de faire ce que tu fais déjà.
Oui, à continuer à être entouré par les gens qui sont admirables autour de moi. Là, j'ai mon ami Sébastien qui est venu aujourd'hui, que je fréquente quasiment tous les jours. Il y a toi, il y a vos projets, tout ça. Moi, j'ai envie que ça prenne de l'ampleur et puis que vous soyez soutenus. Et moi, j'ai envie de vous soutenir et j'ai envie que mes projets fonctionnent dans ce sens-là pour pouvoir montrer qu'il y a de quoi faire à Genève aussi.
S'il n'y avait pas la musique, qu'est-ce que tu serais devenu ?
Un footballeur ? Non. Non, j'étais pas assez
Servette
bon.
FC, non ?
Non, franchement, s'il n'y avait pas eu la musique, je pense que je ne serais pas là pour en parler.
C'est une très belle conclusion. Je te remercie beaucoup, Joel, et puis nous, on se tient au courant. Et courage pour la suite des événements.
Et merci beaucoup et continuez le combat.
À fond. Merci à toi. Allez, on y va avec une deuxième chanson justement de Jules. Peut-être avant que l'on termine complètement, présenterais-tu la chanson suivante qui fait partie de ton répertoire ? Alors, on le dit, hein, celle qu'on a entendue avant l'éveil et puis celle qu'on va entendre maintenant qui est « Vas-tu te taire », c'est ça ?
« Vas-tu te faire ».
Non, « Vas-tu te faire », pardon. C'est un ancien album.
Oui.
Donc certainement que voilà, on va inviter les gens à redécouvrir Jules avec les prochaines chansons qui sortiront. Mais voudrais-tu dire quelques mots de cette chanson « Vas-tu te faire ?»
Alors justement, elle est. Alors, tu as raison, hein, la voix, le son, c'est plus du tout d'actualité. Mais j'aime beaucoup cette chanson parce qu'en fait, elle parle de l'UDC. J'expliquais que quand j'étais plus jeune, mais beaucoup plus jeune, hein, j'avais 18 ans, j'ai toujours pensé que Genève était une ville de droite, et puis je ne voyais pas le problème. Et un jour, j'ai compris ce que c'était d'être de droite, mais d'extrême droite. Et j'ai essayé d'expliquer à la droite pourquoi je ne voulais plus d'elle.
D'accord, eh ben, on écoute ça, et puis en se saluant et en se disant à la prochaine. Merci encore, Jules.
À la prochaine.
Par le beau temps, je t'ai accroché. De temps en temps, aux nuages foncés, je n'aurais pas dû succomber. De la sueur du bout des doigts, après l'effort, une forme d'effroi. J'aurais dû te laisser avant de pleurer. Vas-tu te faire à l'idée? Je ne veux plus faire des...
que moi. Je ne veux plus me faire désirer par toi, vas-tu